dans la JT du local. C'est la deuxième saison et je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans cette émission autour de l'actualité locale mayennaise. Le but, bien sûr, c'est de faire parler les acteurs mayennais, de parler d'actu, mais pas que. En tout cas, d'essayer de balayer très large et d'essayer de, voilà, d'avoir différents sujets autour de l'actu mayennaise. Vous l'avez compris, la JT du local saison 2, c'est aussi un nouvel habillage. Merci à Joël qui l'a fait. Mais tout de suite, on va voir de quoi on parle aujourd'hui. Eh bien, on va parler, justement, ça y est, c'est la rentrée, c'est l'heure de se remettre ou de se mettre tout court au sport ou bien au théâtre, à la danse. Et pour ça, une aide de 25 euros est attribuée par le conseil départemental. On va voir comment ça marche. On va rappeler aussi l'importance du marché aux veaux à Château-Gontier, puisqu'il y a eu le congrès national de la Fédération des marchés du bétail qui s'est tenu à Château-Gontier il y a quelques jours. Et puis de trois nouvelles permanences autour de l'emploi à Cossé-le-Vivien, qui ont déjà démarré là aussi il y a quelques jours. On va revenir un petit peu sur leur mission et quand est-ce qu'on peut les retrouver. Et bien sûr, dans cette émission, il y a toujours le feuilleton de la semaine que l'on va poursuivre jusqu'à vendredi. Et là, à quelques jours des journées du patrimoine, forcément, on ne pouvait pas passer à côté. Et on vous a déniché quelques petites pépites. Et en l'occurrence, on commence aujourd'hui avec l'histoire minière de l'Huisserie et de Montigny-le-Briand. Mais tout de suite, on fait un rapide tour de l'actualité avec François Pervis, reçu à l'Élysée ce soir. Le cycliste sera décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. De quoi conclure de belle manière sa carrière. Après la médaille de bronze obtenue aux Jeux paralympiques de Tokyo avec Raphaël Beaugilet, c'était il y a quelques jours, évidemment, je me répète, pardon, le cycliste originaire de Villiers-Charlemagne avait aussi décroché une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio par équipe. Une grotte de Sauge fermée après un acte de vandalisme qui se serait produit dans la nuit de samedi à dimanche. L'éclairage du lieu a été cassé et des débris de verre et du tabac ont été retrouvés à l'intérieur. La grotte a été fermée aux visites hier. La remise en état des lieux est en cours et une enquête a été ouverte. Jean-Pierre Fouché en tête à Gréhambouère. Les habitants étaient à nouveau invités à se rendre aux urnes hier pour élire leurs prochains élus municipaux. Il a collecté 213 voix sur 320 suffrages exprimés. Jean-Pierre Fouché donc face à Céline Bélanger, avec un taux de participation relativement faible, à peine 50% des voix. Le Breton Jean-Louis Leny gagne la ronde mayennaise. Il a distancé ses adversaires lors du dernier tour de la course et s'est adjugé la victoire en solitaire. Le premier mayennais monte, lui, sur la troisième marche du podium. Il s'agit de Florian Rapiteau du Laval Cyclisme 53. Le groupe Rouquine, lui, poursuit l'aventure The Artist, nouvelle émission de chant sur France 2 présentée par Nagui, où s'est produit donc le duo mayennais Sébastien Rousselet et Nino Vella. Ils ont convaincu samedi soir le jury et le public aussi, grâce à leur réinterprétation de J'irai où tu iras de Céline Dion. Ils seront donc présents lors de la deuxième émission samedi soir prochain. Et puis, je vous le disais en tout début d'émission, une aide de 25 euros pour faire du sport ou une activité culturelle. C'est ce qui est proposé depuis la rentrée à tous les collégiens mayennais. Testé l'an dernier auprès des 6e seulement, le dispositif est étendu à tous les élèves du collège. Il suffit de s'inscrire sur le site du département avec votre justificatif d'adhésion. Une mesure défendue par le président du conseil départemental, Olivier Richefou.
On l'a testé auprès des 6e l'an dernier et ça a très bien fonctionné. Et donc comme ça a bien fonctionné, on a pris cette décision forte, puisque c'est un budget de près de 400 000 euros tous les ans, puisque ça a vocation bien sûr à se poursuivre, de faire bénéficier l'ensemble des collégiens mayennais, les près de 16 000 collégiens mayennais, de ce chèque de 25 euros qui leur permet plus facilement encore de pratiquer une activité sportive ou une activité culturelle. Il y a les deux aspects, il y a bien sûr pouvoir donner la possibilité aux collégiens de découvrir des activités sportives et culturelles, et puis surtout de relancer, et c'est le deuxième aspect, les adhésions, parce que beaucoup de clubs sportifs ou d'activités culturelles ont connu par la force des choses une baisse de fréquentation et ont une crainte de non-renouvellement ou de non-adhésion. Donc c'est aussi une façon de soutenir les clubs sportifs et les activités culturelles, et à travers eux les bénévoles, les très nombreux bénévoles qui en Mayenne comme ailleurs se mobilisent pour faire vivre ces tissus sportifs et culturels en Mayenne.
Je m'appelle Alain Roux, je suis président du club d'Aviron. Nous avons 250 membres, dont 120 étudiants collégiens et écoliers. club formateur, au moins pour une bonne raison, c'est que à l'aviron, ça ne peut marcher que si on rame ensemble. Et d'une certaine façon, ça éduque la mentalité des jeunes qui ensuite ont un comportement plutôt collectif et sûrement sociable. Nous avons été touchés comme les autres clubs. Avec cette particularité, c'est qu'en bateau, la distanciation n'est pas élastique. On est obligé de respecter les contingences des bateaux. Hein. Lorsque nous ne pouvons pas sortir en bateau, nous avons une salle là-haut qui permet de faire de l'aviron indoor, avec les distanciations, etc. Et c'est de cette façon-là, si vous voulez, que nous avons continué à entretenir en quelque sorte le feu sacré.
Donc en tout cas, une réduction de 25 euros sur les licences ici pour tous les collégiens, pour vous, c'est un bon coup de pouce ?
Naturellement que c'est un bon coup de pouce. Et puis ça leur permet aussi d'ouvrir leur découverte de sports différents. Il n'y a pas que le foot, hein. il y a aussi d'autres sports, parce que ce n'est pas le plus populaire. Néanmoins, une fois qu'on y est accroché, ou une fois qu'on y est goûté, on continue.
Cette aide de 25 euros est complétée d'ailleurs par une baisse de cotisation par le club d'aviron lui-même. Le club qui espère accrocher encore plus de jeunes pour atteindre 300 adhérents, scolaires compris. Tout autre sujet maintenant, il rappelle l'importance du marché aux veaux de Château-Gontier, mais aussi des 45 marchés du même type implantés dans toute la France. La Fédération française des marchés de bétail vif a tenu son assemblée générale tout début septembre à Château-Gontier. Nous avons rencontré les responsables de la fédération un jeudi matin sous la halle Saint-Fiacre pendant une vente de gré à gré, c'est-à-dire directement entre vendeurs et acheteurs, l'occasion d'expliquer pour eux pourquoi ces marchés sont primordiaux pour les éleveurs.
Marion Donard pour la Fédération des marchés aux bestiaux. Je suis co-directrice à la Fédération.
Debray Bruno, vice-président à la Fédération et président du foirail de Châteaubriant en Loire-Atlantique.
Boubal Clément, vice-président de la Fédération, président du marché de Sancoin dans le Cher.
Michel Chastan, donc trésorière de la Fédération des marchés de bétail en vif, présidente du marché au cadran de Mauriac dans le Cantal et agricultrice.
C'est important parce que c'est des marchés de l'offre et la demande et on pense que ça tire les prix vers le haut. Qu'autrement, qu'on sait dans les exploitations, s'il n'y a qu'un commerçant qui passe, il fait une proposition de prix ou des fois les animaux ils partent et les gens sont payés à la suite avec le prix dont les animaux ont été vendus. C'est un choix et puis ça permet de faire des cotations et les marchés sont très très importants en France.
Sur l'élevage, on est sur quand même une tendance baissière au niveau des installations, au niveau des nombres d'exploitations. Donc aujourd'hui, il est important de réagir et de consolider même la position des marchés par rapport au travail qui est fait sur les marchés. Moi, je suis agriculteur et je trouve une utilité très importante au marché à travers la transparence, les cotations et la mise en concurrence des opérateurs. Et ça, il faut absolument que ce soit conservé pour les générations futures.
Les éleveurs qui viennent sur les marchés, ce qu'ils veulent, c'est de la liberté de commercialisation. Ils ne veulent pas être enfermés dans un contrat, ils sont chez nous pour ça. Et parce que justement, on a en face de nous donc, des acheteurs qui, eux, sont là nombreux pour acheter les animaux. Et la diversité fait que le prix se maintient, voire monte. Voilà, c'est la loi de l'offre et de la demande.
Je crois qu'ici à Château-Gontier, les premières foires ou les premiers écrits qu'ils ont pu retrouver, c'est 14e siècle. On est au 21e siècle, on est toujours là. Il n'y a pas de raison que les marchés disparaissent dans 20 ans. On a notre utilité, on a notre public et nos cotations rendent service à toute la filière, que ce soit des gens qui viennent au marché ou pas. Ça sert de référence. Donc il n'y a pas de raison que le marché disparaisse demain.
Le marché aux veaux de Château-Gontier, qui on le rappelle, lui, a déménagé du foirail à la halle de l'espace Saint-Fiacre, c'était en avril 2020. L'agriculture qui fait partie de ces secteurs qui recrutent, on en parle justement dans 3 minutes, mais pas que. Ce sera après Smokey Joe and the Kid, Just Walkin'.
I just started smoking, it's hard to cope with. My soft little heart is broken. I'm home alone like Macaulay Culkin. Wake up every morning groaning, soaking, waiting for the local bar to open. And I'm such a lazy mess, waiting for death to end this craziness. I put my pain to rest. Sometimes I reach out to a side of the bed, but all I find is plenty empty vodka bottles instead.
what we have is truly that unique. The school teacher, the musician, the beauty and the peace. But I was always on the road, seeking dudes I had to meet. Getting hammered after shows and having groupies at my feet. It's crazy when all these ladies place you on a pedestal, poke their little titties out and claim you are incredible. Stupidness boosted the confidence I had, and one day my baby caught me packing condoms in my bag. I just started drinking to calm the tension, and not to mention stop me thinking. My body's thinking, I get washed in a minute. I'll get evicted next month, but I don't want to admit it. And I'm such a lazy mess, waiting for death to end this craziness and put my pain to rest. Sometimes I reach out to a side of the bed, but all I find is Heineken cans and bottles of red. I heard she was seeing a police officer. I'm sure he's soft, plus what more could he offer her? I started stalking her, I confronted a man. He punched and pushed me and I punched like the pussy drunk that I am. My honey was laughing, hollering, get up and then scram. Pity is all I feel, a dollar bill was dunked in my hand. She left me like a helpless freak with no self-esteem. Was doomed to dream about a powerless steer. I run out and cry himself to sleep.
Walking, Smokey Joe and the Kid sur l'autre radio. Je vous en parlais juste avant la pause musicale. Trois nouvelles permanences autour de l'emploi à Caussy-le-Vivien. On parle de celles de Transition Pro Pays de la Loire, de l'ANEFA 53 et du GIEC 53. L'objectif, c'est d'apporter un nouveau service aux habitants et de lever le frein à la mobilité. Et oui, ce n'est pas toujours simple de devoir aller à Laval pour chaque rendez-vous professionnel. Présentation donc de chacun de ces organismes et de leur mission.
Bonjour, Sandrine Leguet. Donc, je suis référente des parcours de formation chez Transition Pro Pays de la Loire sur le territoire de la Mayenne.
Transition Pro Pays de la Loire, est-ce qu'on peut présenter un petit peu l'organisme ?
Donc, c'est un organisme paritaire qui a fait suite en fait au PRONGESIF depuis le 1er janvier 2020. Et donc, on est un organisme qui finance les projets de reconversion pour tous les salariés.
N'importe qui peut venir vous voir ?
Effectivement, donc tous les salariés du secteur privé, quelle que soit en fait la nature de vos contrats, que vous soyez en CDD, CDI, intérimaire, n'hésitez pas en fait à venir nous voir si vous avez un projet de reconversion professionnelle.
Donc là, dans vos missions, on est vraiment plutôt sur le financement justement de ce projet. Donc il vaut mieux en tout cas avoir déjà une petite idée de son projet de reconversion quand on vient justement vous voir.
Exactement. Donc dans l'idéal, en fait, il faut déjà avoir travaillé en fait son projet, savoir quel métier on veut faire. Et dans l'idéal aussi, c'est d'avoir déjà une idée vers quelle formation vous souhaitez vous diriger et est-ce que vous avez déjà trouvé l'organisme de formation ou pas. Et donc là, après, moi, je vous accompagne sur l'optimisation de votre parcours de formation, combien il coûte, quelle durée, quelles sont les modalités pédagogiques de la formation, etc. Donc, on étudie en fait tout ça ensemble, de façon à ce que vous puissiez déposer après votre dossier et que votre projet soit bien présenté, bien argumenté, de façon à ce que lors de la commission paritaire, les commissaires puissent apporter un avis favorable au financement de votre formation, quoi.
C'est souvent le cas, justement, il y a beaucoup de projets qui sont validés.
Donc aujourd'hui, on est sur un coût moyen de projet à 25 000 euros. Et donc quand je parle d'un coût de projet, c'est les coûts pédagogiques plus le coût de votre rémunération durant en fait cette période de formation. Et donc le coût moyen, il est de 25 000 euros. Mais bon, on a des projets à plus, on a des projets à moins. Hein, donc il ne faut pas s'arrêter à cette limite. Mais en tout cas, il faut s'y rapprocher le plus possible hein, pour pouvoir justement être financé. Et aujourd'hui, on est sur un taux moyen d'acceptation à 70%. Donc c'est quand même plutôt... avantageux, quoi.
Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre activité depuis quelques années ?
Donc on a beaucoup de nouvelles demandes, de nouvelles typologies en fait de projets professionnels. Aujourd'hui, nos financements forcément sont fléchés, hein, donc sur des critères, des priorités, etc. Donc après voilà, votre projet il sera plus ou moins en fait financé ou validé directement par la commission paritaire, quoi.
Et donc si justement on est intéressé pour vous rencontrer, pour prendre des informations, comment on peut faire ?
Donc, vous pouvez joindre donc, sur la plateforme téléphonique à Nantes au 02 40 20 28 00 ou directement sur notre site internet sur transitionpro-pays-de-la-loire.fr. Et puis, je serai présente en fait tous les vendredis, tous les premiers vendredis du mois sur le territoire en fait de Cossé-le-Vivien sur la communauté de communes de Cran, où là, je pourrai vous recevoir en rendez-vous individuel ou le midi de 12h à 13h30 sur une information collective justement sur le projet de transition professionnelle.
Donc Marwan Henny, je suis directeur du GEC, Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification en Mayenne. Le GEC multisectoriel, puisqu'il y a deux GEC, il y en a un également qui est dédié au BTP, donc avec Sandrine Vaucala, mais on a le même principe de fonctionnement associatif. Et notre objectif, en fait, c'est d'amener des personnes à la recherche d'emploi qui nécessiteraient d'intégrer un métier par de la formation, de leur trouver un contrat pro ou un contrat d'apprentissage et de les mettre avec des relations avec des entreprises en relation pour permettre aussi aux entreprises de faciliter leur recrutement.
Ça veut dire qu'on peut s'adresser à vous aussi bien qu'on soit une entreprise qui cherche à former quelqu'un qu'un candidat.
Oui, c'est ça en fait. Des candidats se présentent à nous parce qu'ils cherchent un métier et des entreprises nous contactent parce qu'elles ont besoin de sourcer des candidats, de recruter, qu'elles ont du mal à trouver des candidats et surtout porter le plan de formation, les différentes demandes de financement, tout le contrat. Le temps de la formation du salarié. Donc en fait, ça fait un peu une solution clé en main. Hein. On a un besoin en compétences en tant qu'entreprise et le GEC va chercher le candidat et va porter le contrat jusqu'au bout. Donc qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un candidat, il ne faut pas hésiter à nous contacter et on fait le lien.
En tout cas, l'avantage pour les entreprises, c'est peut-être que vous les soulagez de toute cette partie administrative qui peut être lourde.
Alors on les soulage de toute la partie administrative qui peut être lourde, mais surtout, on arrive aussi à activer des réseaux de sourcing de candidats qui nous permet de trouver des candidats là où parfois elles peuvent avoir des difficultés.
Pensez à quoi par exemple ?
Eh ben, y a des candidats ne serait-ce qu'en agent de production sur de l'industrie où c'est très compliqué, en maçonnerie, en électricité, en maintenance. Voilà, sur le territoire mayennais, il y a beaucoup de métiers où c'est difficile de recruter, en logistique, en espace vert également. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler.
Justement, ça peut permettre aussi de passer cette barrière du CV qui parfois empêche aussi bien un candidat de rencontrer, en tout cas les dirigeants de l'entreprise, et aussi l'entreprise qui peut écarter des candidats qui en fait finalement auraient pu être intéressants.
Exactement, parce qu'en fait on arrive à prendre le temps d'identifier le potentiel des candidats et à identifier un peu quelles sont leurs personnalités. Et aujourd'hui, ce que veulent les entreprises, c'est des candidats, des salariés fiables sur qui ils vont pouvoir compter, qui sont faits pour bosser chez eux, parce qu'ils vont partager la même culture d'entreprise, parce qu'ils vont partager la même envie d'apporter un certain travail. Donc on va plutôt nous prendre des personnes sur la base de leur potentiel, qui ils sont, en se disant bah voilà, il n'y a plus qu'à mettre en place par contre le plan de formation pour les rendre opérationnels. Donc en fait on ouvre tout un champ de nouveaux candidats aux entreprises, puisqu'on recrute des personnalités et pas des CV.
Ici, justement, une nouvelle permanence avec le GEC va s'ouvrir à Cossé-le-Vivien. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tout cas ? Qu'est-ce que ça va changer d'avoir cette permanence ici ?
Déjà, ça nous permet de répondre à un objectif de base du GEC, qui est un groupement d'employeurs départemental. Aujourd'hui, l'essentiel de notre activité est concentré sur Laval agglomération. Donc, on veut aussi, nous, respecter nos engagements du département. Donc, on s'implante à Cossé-le-Vivien. On est également accueilli au Coëvron. Donc là, ça fait maintenant 6 mois qu'on est en train de mailler le territoire petit à petit. L'objectif étant vraiment de permettre aux personnes qui recherchent un emploi d'avoir ce relais au plus près. C'est pas forcément évident quand on habite à 40 minutes de Laval ou autre, hein, de venir faire des rendez-vous réguliers. Et puis, on a aussi un lieu de rencontre avec les entreprises qui voudraient nous rencontrer de proximité.
D'autant plus important, là, après maintenant encore un petit peu plus d'un an et demi après cette crise sanitaire, là, de pouvoir rencontrer en face à face, en tout cas quelqu'un, pour avancer sur son projet professionnel.
Bah oui, c'est vrai que nous, on a quand même des métiers de contact, hein, donc pouvoir rencontrer les personnes, c'est mieux, d'autant plus quand on veut jauger un peu qui ils sont. D'avoir des contacts de visu, des échanges directement, ça permet de mieux rencontrer les personnes, mais surtout, ça permet aussi aux candidats d'être un peu plus rassurés, parce que quand on se rencontre directement, ils voient la structure dans laquelle ils voient aussi les personnes qui vont les accompagner, et puis répondre à des questions qui nous viennent spontanément. C'est toujours plus simple plutôt que d'avoir à préparer un entretien à distance, qu'est-ce que je vais poser comme question, etc., etc. La période de confinement, on l'a vécu, mais comme tout le monde, voilà, il a fallu s'y adapter. Et puis maintenant, on passe à une autre étape et on essaie de mettre ça derrière nous pour repartir sur un peu la culture qu'on a aussi en local, hein. C'est se rencontrer, c'est partager, c'est échanger. Et puis en créant des rencontres, on tire une ficelle qui amène à des projets professionnels.
Il y a évidemment le cœur de votre mission, c'est-à-dire vraiment les projets professionnels, mais il peut y avoir aussi, si besoin, en tout cas, un accompagnement socio-professionnel qui est proposé aux candidats.
Alors, c'est quasiment dans tous les parcours. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fait, une des difficultés des entreprises, c'est pas seulement de recruter, c'est aussi de réussir à maintenir les personnes dans leur poste sur du long terme. Parce que on va avoir parfois dans la vie, en tant que salarié, des petits moments qui vont perturber. Ça peut être un problème de mobilité, ça peut être un problème de logement, ça peut être un problème de moyens à un certain moment pour se rendre au travail. Et les entreprises nous disent « mais moi j'ai quelqu'un de bien, qui bosse bien chez moi, dont je suis content. Et c'est dommage parce que je l'ai perdu pour un petit pépin qui, s'il avait été accompagné, lui aurait permis de rester quand même au travail. » Donc là, les entreprises utilisent le GEC, c'est aussi pour l'engagement que l'on a à les accompagner. Et donc, si un salarié a le besoin pour pouvoir être maintenu dans l'emploi ou même tout simplement se sentir mieux dans sa vie, d'un accompagnement spécifique au quotidien, le GEC prendra le temps de faire cet accompagnement et à des spécialistes qui le font.
Est-ce que là, sur le territoire du Pays de Caen, ou peut-être même sur la Mayenne en général, est-ce qu'il y a des secteurs justement où vous savez qu'il y a des besoins déjà plus importants là ?
Il y a énormément de besoins dans le secteur du bâtiment, en règle générale. Il y a énormément de besoins dans le secteur des espaces verts, dans le secteur de l'industrie, évidemment. Je travaille beaucoup avec l'industrie de plus en plus. Les services aussi. Mais bon, c'est quelque chose que moi je vois comme quelque chose de très positif. On a un territoire économique qui est très attractif et qui mérite d'avoir plus de personnes qui le connaissent. Donc on a des attractivités qui se font parler comme pour faire venir des gens de l'extérieur. Et il y a aussi des structures comme la nôtre qui vont permettre aussi aux gens de l'intérieur de pouvoir s'installer aussi durablement dans leur vie professionnelle.
Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on est intéressé ?
Donc, on nous contacte par téléphone ou par email, contact@gec53.fr. Et puis, donc, on vous donne un rendez-vous et on vous reçoit avec grand plaisir.
Bonjour, Sophie Mongondry, je suis chargée de mission emploi à l'ANEFA 53. Donc, l'ANEFA de la Mayenne, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture.
Et donc, justement, l'ANEFA 53 qui va avoir une nouvelle permanence ici à Cossé-le-Vivien, ce sera quand déjà ?
Alors, vous pourrez nous retrouver tous les premiers vendredis matin de chaque mois, donc de 9h à midi.
Quel est l'intérêt justement ici d'avoir cette nouvelle permanence, peut-être de toucher un autre public ?
Tout à fait, le but ça va être la proximité. Sur la communauté de communes du Pays de Caen, on va pouvoir viser des personnes qui peuvent peut-être pas se rendre sur le secteur de Laval. Donc c'est ouvert aussi bien pour les demandeurs d'emploi que pour les employeurs qui recherchent de la main-d'œuvre.
Sachant que il y a toujours à peu près une cinquantaine de postes qui sont vacants en agriculture, c'est le cas aussi en ce moment en Mayenne ?
Tout à fait. Là, actuellement, on a à peu près 47 offres à pourvoir. Donc, on va retrouver le secteur bovin-lait, le secteur porcin et grande culture prioritairement.
Il y a un peu une caractéristique en Mayenne peut-être par rapport à d'autres départements, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'emplois, on va dire, non qualifiés. Donc ça veut dire que c'est peut-être plus difficile aussi de trouver une main-d'œuvre qui correspond à chaque fois.
En effet, il y a une réelle difficulté. C'est pourquoi on a des interventions pour nous faire connaître, telles que donc, les permanences, mais on est également présent sur des forums emploi. On a ce qu'on appelle le dispositif AgriMove. Malgré un contexte difficile avec la crise sanitaire, on a pu quand même maintenir 6 en premier semestre. C'est-à-dire, c'est composé de 3 informations collectives où on se rend dans les pôles emploi de Château-Gontier, Montpellier, Laval et Mayenne. On vise donc ces trois secteurs pour parler des métiers qui recrutent, de qui nous sommes, pour des demandeurs d'emploi qui ne connaissent pas forcément très bien le métier de l'agriculture. Et s'ensuit derrière, environ 15 jours après, ce qu'on appelle les voyages en agriculture. Là, on leur propose d'aller sur le terrain, vraiment c'est concret, de la visite d'exploitation et se rendre dans les centres de formation pour faire des ateliers gestes, pour après derrière faire des suites de parcours.
J'imagine que vous avez des bons retours plutôt de cette formule.
Tout à fait, c'est plaisant. D'ailleurs, nos prochaines dates, puisqu'on va en avoir 6 autres sur le second semestre, donc là, je peux vous les communiquer, ça va être le 19 octobre au Pôle emploi de Château-Gontier, le 26 octobre à Laval et le 2 novembre au Pôle emploi de Mayenne.
Et donc, si on est intéressé justement, que ce soit pour participer à ces réunions-là ou tout simplement parce qu'on se pose des questions, qu'on aurait envie peut-être de se réorienter ou en tout cas d'avoir un projet dans le milieu agricole, comment est-ce qu'on peut vous contacter ?
Vous pouvez nous joindre donc sur soit le site de l'ANEFA ou également sur un des outils incontournables qui est notre bourse de l'emploi où à la fois les demandeurs d'emploi peuvent s'inscrire. On a un espace candidat mais également un espace employeur où les employeurs qui recherchent de la main d'œuvre peuvent aussi directement déposer leur offre d'emploi. Donc nous on a vraiment une mission de mise en relation.
Toutes ces permanences auront donc lieu à la maison de la communauté de communes à Cossé-le-Vivien. Ce sera tous les premiers vendredis du mois, ce sera l'ANEFA 53. Tous les premiers vendredis du mois également, Transition Pro Pays de la Loire. Et tous les premiers lundis du mois, ce sera autour du GIEC 53. On revient avec notre feuilleton autour des journées du patrimoine. Juste après ça, c'est Jungle avec Cherry.
Thank you.
ça fait du bien aux oreilles. En tout cas, aux miennes, c'était Cherry de Jungle, du groupe Jungle que vous venez d'entendre. C'est maintenant l'heure de notre feuilleton dédié cette semaine aux journées du patrimoine. Les 38e du nom ont lieu ce week-end, les 18 et 19 septembre, autour du thème patrimoine pour tous. Ce sera l'occasion, notamment en Mayenne, de découvrir l'histoire méconnue des mines de charbon à l'Huisserie et à Montigny-le-Briand, grâce à tout un programme d'animation concocté par l'UDAL, l'Union d'animation luissérienne, grâce notamment aux recherches de Loïc Michel. L'extraction a commencé dans le début des années 1830, puis a réellement pris son essor dans les années 1850. On écoute justement Loïc Michel nous raconter la suite.
En une dizaine d'années, la ruée des mineurs et de leurs familles a fait de ce petit bourg qu'était l'Huisserie une agglomération qui rattrapait les bourgs aux alentours. Et on a vu des familles entières arriver, des anciens puits comme la Baconnière ou comme la Bazouge de Chéméré, qui étaient des anciens sites d'extraction minier. Quand on grossit de cette façon-là, il faut aussi prévoir les infrastructures qui vont avec. Quand l'instituteur, en 1858, se plaint auprès du maire qu'il a 80 ou 100 enfants dans une seule classe, effectivement, ça remue. Mais le conseil municipal, essentiellement constitué d'agriculteurs et de commerçants artisans du bourg, eux ne voient pas ça de cette façon-là. Ils trouvent que ce sont quand même, et c'est marqué dans les comptes rendus du conseil municipal, on a affaire à des étrangers et des nomades. Et on subit des choses qu'on n'a pas voulu, puisque c'est les sociétés minières qui les ont fait venir. Les lavandières, les femmes du bourg, se sont plaintes auprès de la municipalité en disant « ça ne peut pas durer comme ça, on est trop nombreux et notre linge va sortir plus sale qu'il n'est arrivé ». Donc, obligés de construire un deuxième lavoir de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Des mineurs, au moment de pointe, vers les années 1870-1880, ils étaient à peu près 200. Donc, il faut voir les familles qu'il y avait à côté. Quand on était mineur, on travaillait 6 jours sur 7. On faisait des journées de 10, même voire 12 heures au début. Le repas du midi ou la mi-journée, on le prenait en bas, ça s'appelait le briquet. On descendait par un train d'échelle et on pouvait descendre jusqu'à 200 mètres. On débitait le charbon par palier. Et donc dans une équipe, on avait des piqueurs, et c'était eux qui tapaient dans le charbon, dans le mur de charbon pour amener. Et puis les wagonnets qui étaient mis sur des rails étaient souvent tractés par les galibots. Les galibots, ce sont les enfants des mineurs. Sortis de l'école à 10 ans, 12 ans, ben, on devenait galibots et on transportait 8, 10 heures de temps le charbon jusqu'au trou, ce qu'on appelait le trou, c'est-à-dire là où il y avait la plateforme qui remontait le charbon jusqu'à la surface. Il reste quelques entrées de puits, il reste le café de la mine qui est toujours là, mais il y a peu de choses qui sont restées. Ce qui fait que les nouveaux habitants disent des mines ici, mais où ils sont où les corons non. Et puis ici, les gens ne travaillaient pas pour la sidérurgie ou pour la métallurgie, ils travaillaient pour les fours à chaud. C'était pour alimenter énergétiquement les fours à chaud qui avaient ce charbon.
Et pour retracer toute l'histoire que vous venez d'entendre avec bien plus de précision, rendez-vous ce samedi à l'Huisserie et ce dimanche à Montigny-le-Briand pour observer les objets et documents d'époque, voir des films de reconstitution, profiter des randonnées sur les sites miniers ou même, pourquoi pas, de la pièce de théâtre des Gueules Noires en Mayenne, justement proposée par la compagnie, si bien nommée les « Pourquoi pas ». C'est la fin de notre émission L'Agité du Local, c'était la première de cette deuxième saison. Alors je vous rappelle les bonnes habitudes à reprendre, ça y est, dès aujourd'hui. Nous serons donc diffusés tous les jours à 12h15, puis rediffusés à 18h15. Donc je vous attends tous les jours, évidemment la prochaine c'est demain, mais ne partez pas tout de suite puisqu'à 19h il y aura Solénoïd, suivi à 20h de la discothèque de Fabrice à découvrir ce soir. Mais avant, à 13h, d'ici une petite dizaine de minutes, vous retrouvez Regard d'ailleurs, votre émission qui vous emmène en voyage dans la vallée du Drac avec Mohamed, un artiste peintre calligraphe marocain. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis bien sûr à demain.